à l'antenne de Boulevard 101, mais de là à créer une milice terroriste pour prendre en charge une partie de la ville de Québec. Je pense que là, il y a un point justement qui a été dépassé. On a avec nous Frédéric Maheu, président de l'Association des travailleurs du préhospitalier. On va justement parler de cette grève dans le milieu préhospitalier. Frédéric, comment ça va en ces moments de perturbation justement avec le gouvernement?
Écoute, au niveau du terrain, la grève a débuté dimanche matin. Le tout se passe somme toute assez bien. C'est sûr que le service à la population n'est absolument pas touché. Donc, c'est vraiment c'est une grève de tâches qu'on appelle. Nous, c'est certaines tâches qui ont été jugées non essentielles. Mais je voudrais dire que sur le terrain, les paramédics sont vraiment écœurés. Ça fait plus de 2 ans qu'on est dans sa convention.
Oui, hein, c'est ça.
C'est plus de 60 séances de négociation qu'on a fait avec les employeurs, avec urgence, avec le ministère et le Conseil du Trésor. Et au ministère du Conseil du Trésor, là, il n'y a absolument rien qui se passe. On parle des demi-heures de rencontre au lieu d'une journée. On parle. Il n'y a absolument aucune négociation qui se fait.
Et pourquoi on tient la ligne dure avec vous alors qu'on ne l'a pas vraiment tenu avec les employés de l'État? Là, même si ça s'est étiré en bout de ligne, les employés de l'État ont eu des bonnes augmentations salariales. Là. Qu'est-ce qu'on vous donne comme raison? Pourquoi vous attaquez vous plutôt que les autres?
Il n'y a aucune raison. Écoutez, c'est un point noir, il n'y a rien qui se passe. Et nous, c'est notre mandat qu'on a. Fait qu'on a l'impression qu'ils n'ont aucun mandat pour négocier. On sait que dans les dernières années, au niveau du système préhospitalier, on voudrait être mis de côté. On voudrait avoir d'autres solutions que de l'ambulance sur la route, même si les solutions ne font pas de sens pendant tout. Puis, c'est du mépris.
Attends, je t'arrête là. On veut d'autres choses que des ambulanciers sur la route. Parce que là, moi, ce que je comprends, c'est que dans le service ambulancier, déjà, le schéma de couverture de risque n'est pas du tout maximal. Là, on entend régulièrement du 20 minutes de délai d'intervention ici même dans la région de Québec, puis c'est encore pire en Chaudière-Appalaches et en Beauce.
Ça fait 2 ans qu'on dénonce le manque d'ambulances sur la route au niveau de la capitale nationale. On demandait 35 000 heures de plus juste pour la capitale. On a eu ça pour la province. Donc, ce qui en est résulté, ça n'a pas de sens. On a eu 12 000 heures pour
avec une population qui vieillit, rappelons-le. Donc, plus de risques, justement, d'arrêt cardiaque, plus de risques de chute.
Puis qu'il y a une population qui augmente aussi dans les dernières années. On a énormément d'augmentation de population pour la capitale nationale. Ça ne survient pas. Puis là, on voudrait avoir d'autres systèmes qui ne fonctionnent pas, des choses qui ont été mises en place à Québec, qui ont été arrêtées parce que ça ne vient pas au bout. Puis l'ambulance a été prouvée. Plus vite on arrive, plus vite on est capable de donner des soins puis stabiliser les patients.
C'est clair.
Moins longtemps qu'ils restent à l'hôpital, ils ont moins de morbidité, moins de mortalité. Puis ça enlève des coûts au système de la santé.
Fait que là, on n'investit pas dans l'ambulance et on surinvestit dans le système de santé pour faire des coupes dans le système de santé. Fait qu'il y a une roue qui ne tourne pas du bon bord.
Qui tourne pas. Présentement, au niveau de nos conditions de travail, dans tout ce qui est le système de l'urgence, système de que ce soit les pompiers, policiers, ou les infirmières, inhalo, tout ça, on est les enfants pauvres. On n'est même pas reconnus pour ce qu'on fait présentement. Puis là, on veut mettre en place des premiers répondants qui vont arriver plus vite que nous, qui vont aller faire des soins de base, tenir la main, rassurer les gens, peut-être mettre de l'oxygène lorsqu'il y en a besoin, qui ne feront pas les soins comme nous, on va faire. Ces gens-là vont être payés plus cher que nous.
C'est quoi les aberrations de la couverture de services dans notre grande région de Québec?
Il manque énormément d'ambulances sur la route présentement à Québec. On réussit à avoir 12 000 heures. Les 12 000 heures étaient annoncées, mais il n'y a rien de mis encore. Il n'y a rien qui est mis en place. Il n'y a pas d'ambulance de plus. Ce qui fait en sorte que les patients, bon, ils vont appeler, ils vont attendre énormément l'ambulance.
Non, je comprends. Oui. Je comprends qu'il manque de couverture. Oui. Mais il y a des aberrations aussi dans l'organisation du système. Moi, je vais entendre parler de ces aberrations-là. Ça m'est raconté souvent quand je rencontre des paramédics en privé, mais je me dis, Colin, on n'entend pas assez parler dans les médias. Là, je vous ouvre la porte. Là. Mais les aberrations de couverture, oui, il manque d'ambulanciers sur le terrain, il manque de paramédics sur le terrain, mais il y a aussi des aberrations dans l'organisation du travail qui rendent la couverture déficiente ou qui rendent la couverture complètement débile. Là.
En fait, des grosses aberrations, il n'y en a pas tant que ça. Pas mal moins qu'avant. Le problème qu'on vit présentement qui fait que c'est une aberration, c'est que tous les appels sont surpriorisés pour éviter d'échapper à un appel.
Okay.
Vous comprendrez que le 911, les gens, quand on va appeler le 911, la personne qui vous répond ne vous voit pas. Tant aussi longtemps qu'il n'y aura pas de vidéoconférence du 911, c'est extrêmement difficile pour la personne du 911 d'être capable de vous évaluer correctement. Mm-hmm. Donc, ils surpriorisent les appels pour être sûr de ne pas en échapper.
Ouais.
De dire, ben écoute, finalement, Jeff appelle, puis il minimise ses symptômes, mm-hmm. puis on prend plus de temps pour y aller, puis finalement, il meurt chez eux parce qu'il est en infarctus. T'sais? C'est ça qu'on veut pas arriver. Mais ça prend une flotte ambulancière pour le supporter, puis ça, on ne l'a pas. Fait que finalement, des vrais appels, des vraies priorités 1 et 0 vont être dilués dans la masse des faux appels parce qu'on a surpriorisé d'autres appels. Fait qu'on n'ira pas à temps pour aller chercher.
Fait que c'est ce qui explique les fameux délais d'intervention, c'est qu'ils sont plus élevés.
Parce que les vraies aberrations, des gens qui, mettons, on a toujours les vieilles histoires qu'on entend. Il est parti au CHU parce qu'il voulait aller à Place Laurier en face. On n'a plus de ça.
Non, mais mettons, le comté de Portneuf, il y a des gens du comté de Portneuf qui nous écoutent ici, oui. Là. Puis l'obligation pour les paramédics, c'est d'aller porter la personne à l'hôpital de Saint-Raymond-de-Portneuf. Mais des fois, on sait que la condition ne pourra pas être traitée à Saint-Raymond-de-Portneuf. Et on s'en va porter un patient dans un hôpital pour lequel on sait que c'est la consigne, il faut l'amener là parce que c'est dans le territoire de service. Mais on sait très bien qu'il va être retransféré plus tard à l'Enfant Jésus ou au CHUL. Je parle de ça, là.
Ça arrive, mais moins. C'est vraiment les corridors de service qu'on appelle qui sont gérés par les médecins.
Oui.
Puis il faut faire en sorte que c'est les services, s'il y a moins d'un service qui est donné, soit parce qu'on sait que c'est la CLSC de Saint-Raymond-des-Carrières, on sait que l'hôpital de Saint-Raymond, c'est pas là qu'il y a le plus de spécialités.
Ben
c'est sûr et certain. Mais ils doivent aller là en premier pour stabiliser, voir sont-tu capables de le traiter là, parce qu'à Québec, mais les hôpitaux débordent. Fait que si on amène d'autres patients immédiatement, si on est-tu capable de faire des soins de santé avant, qu'on pourrait éviter à faire à Québec, ils vont essayer de le faire.
Ouais.
Mais sinon, il y a des transports qui partent d'aussi loin de Saint-Raymond, puis que ça va être directement apporté à Québec parce qu'on n'a pas le choix. Ce qu'il faut, c'est une chirurgie, c'est une intervention immédiate avec les spécialistes qui sont à Québec, fait qu'ils n'iront pas à Saint-Raymond. Fait que ça l'arrive, mais c'est très rare. C'est vraiment là. Puis c'est pas dicté par le gouvernement, rien. C'est vraiment dicté par les médecins qui sont en charge du préhospitalier à Québec. Donc, il y a un médecin qui est en charge de la province qui sont en charge d'autres médecins qui sont en charge de régionalement, qui sont pour là-dessus.
Au niveau salarial, j'ai entendu dire des baisses salariales pour vous. Comment ça se peut, des baisses salariales dans une négociation de renouvellement de convention collective?
Écoute, en 20 ans, j'ai jamais vu ça. Puis je parle avec d'autres sortes de syndicats, d'autres sortes de travailleurs, que ce soit dans le système de la santé ou privé ailleurs, puis j'ai pas vu ça nulle part. Nous, présentement, il y a deux demandes. Donc, il y a l'augmentation du coût de la vie qui est normale, que tout le monde demande.
Exactement.
Bon, ça, présentement, on a toujours eu... La médecine paramédicale est très jeune. Ça fait 35 ans que ça existe. On a toujours eu le salaire, l'augmentation salariale du secteur public. Toujours. Peu importe ce qui est arrivé, c'est ça qu'on a eu.
Ce qui a été signé là, dans la dernière année.
Ça, ils ne nous le donnent pas.
OK.
Ils ne veulent pas nous le donner.
Puis
ils
pourquoi?
Disent que, ils disent on fait comme les autres services, donc avec ce soit le Fonds commun, la FIC, la FAE, peu importe. Si on vous le donne, il faut avoir des contreparties. Ce qu'on est prêt à faire, ce qu'on est prêt à s'entendre, c'est de la mobilité de main-d'œuvre. Il y a certaines régions qui ont plus de difficultés à embaucher, qu'il y a des bris de couverture. Ça, on est prêt à s'entendre. Là où on ne s'entend pas, c'est vraiment la réévaluation du métier. Donc, c'est un rangement qui est gouvernemental. C'est un outil gouvernemental pour dire. Toi, ton métier, qu'est-ce que tu fais? Ton éducation, ta formation, les risques associés à ça, la liberté d'expression au niveau de ton métier, les actes sont donnés, tout ça, qu'est-ce que ça vaut? Puis présentement, notre métier a monté exponentiellement. Avant, les gens, il n'y avait même pas de secondaire 5 qui pouvait faire ça. T'avais-tu peur du sang? Est-ce que t'aimes ça conduire vite? Viens t'en ambulancier.
Viens t'en, on t'embauche.
Mais c'est plus comme ça. Depuis 35 années, c'est rendu un deck. Les formations sont très poussées.
Ouais.
On a beaucoup d'actes à donner. On soigne les gens. On ne fait pas juste les transporter. On va soigner les gens. On va les stabiliser. Puis on va les amener à l'hôpital. Mais nos conditions de travail n'ont pas suffi avec ça. Puis là, mais l'évaluation qui a été faite, c'est qu'on devrait être beaucoup plus haut au niveau du rangement. Je vous l'ai dit, on est dans tout système de l'urgence. On est les enfants pauvres. Mais quand tu regardes tous les risques associés au métier, on est les plus à risque. Donc, les chocs post-traumatiques, non. Au PAC canadien, tout métier confondu, on est le métier avec le plus haut le taux de chocs post-traumatiques, le plus haut taux de suicide associé au chocs post-traumatiques.
OK.
Au niveau des bris, on ne se rend pas à la retraite. On est brisé mentalement, on est brisé physiquement. Les gens de 40, 50 ans sont sortis du métier. On ne peut plus le faire, ce métier-là.
Parce que c'est un métier dur. Moi, j'en connais qui ont été ambulanciers puis qui ne le sont plus, qui donnent plus des formations en premiers soins parce qu'ils ont été marqués par des événements, justement, sur le terrain.
Exactement. Puis c'est pas rare au niveau de la compagnie ici, des gens de 45 ans, 50 ans se faire dire par le médecin que tu ne peux plus faire d'ambulance, tu es trop brisé, tu as trop mal au dos, tu ne seras plus capable de soulever des patients, de descendre, de faire des soins. Fait qu'on est brisé, puis là, ils nous augmentent nos retraites. On n'est même pas capable de se rendre à la retraite.
Fait que ça fonctionne.
Puis là, on se dit, non, mais finalement, nous, l'évaluation qu'on fait de vous, on devrait vous redescendre de rangement. Puis là, quand on parle avec eux, OK, mais c'est quoi les critères? On a fait le même travail des deux côtés, évaluant nos critères, comparaison nos affaires. Puis finalement, on se rend compte que ils ont fait une job de cochon, on va se le dire. T'sais, là, on donne par exemple des fois, mais le tout ce qui est le tremblement, tu sais, ça shake, bon, mais qu'est-ce... Oui. Bon, ben, on regarde, c'est des niveaux 1 à 10, 1 intense, ben, je travaille dans un bureau, il n'y a rien qui tremble, ou je travaille avec un marteau piqueur, puis ça tombe à 10.
Ça tremble, tu tombes à 10, oui.
On tombe, nous, mettons, à 6, 7. Là, okay. On regarde à eux, ils sont à 0. Puis là, on dit, OK, mais pourquoi vous nous mettez 0?
Ben oui.
Vous comprenez qu'une ambulance, ça vibre?
Ben, ça, ça
je
vibre.
Veux dire, je passe ma journée dans une ambulance, ça vibre.
Tu as du personnel à transporter, des patients à transporter, tu le quittes, on s'entend qu'il y a de la vibration.
Mais, nous, on vous a évalué comme si vous travailliez à l'urgence. C'est parce que mon métier, c'est tout sauf à l'urgence.
Ben oui.
Je travaille pas à l'urgence. Moi, je travaille dans un camion. Mon camion,
c'est clair.
L'hiver, il est toujours en fonction parce qu'il faut que j'aie du chauffage, ouais, pour les médicaments pour mon personnel. L'été, même chose pour la climatiser parce que les médicaments, je peux pas être à chaleur, mais les coups de chaleur, j'ai besoin de refroidir mon patient. Ça vibre tout le temps. Je suis toujours. Ça vibre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis là, on dit, ah, mais je suis pas de même, je l'ai fait. Ouais, mais c'est,
donc,
c'est
zéro,
pas de même, ça fonctionne.
Les critères sont pas reliés à votre réalité. Ronde de négociation qui repart demain?
Oui. Donc, on a encore une espèce de blitz de négociation, ouais, jusqu'à la fin juillet. Il reste 9 séances. On espère pouvoir faire avancer les choses. On a peu d'espoir, mais la grève est partie pour donner un coup de pouce à notre comité de, mm-hmm, négociation pour faire réveiller le gouvernement, qui nous ont dit, là, ouais, mais ça ne sert à rien vraiment de négocier, vous n'êtes pas en grève. Ils nous ont dit ça. Imaginez, écoute, ouais, j'ai pas envie de tomber en grève. Ben j'aime, non, pas ça,
ben
tomber,
non,
en grève. Il y a personne qui veut faire, non, ça. Mais là, tu me dis que t'es même pas prêt à négocier tant que j'irai pas en grève. Grève. C'est épouvantable. C'est avec ça qu'on négocie présentement.
Comment ça se passe à l'urgence pour les paramédics? Est-ce que vous attendez encore très longtemps, alors, avant que la prise en charge? Est-ce qu'il y a du travail interdisciplinaire qui s'est fait? On sait que le ministre de la Santé, Christian Dubé, a longtemps dit qu'il voulait travailler davantage en collaboration avec les paramédics, leur donner plus de rôle dans le système de santé, là, leur permettre, là, de contribuer davantage. Est-ce que vous êtes encore pogné à attendre trop longtemps l'urgence à faire du présentiel plutôt que des soins?
Totalement. Écoute, ça fait 10 ans, qu'on en 10-15 ans qu'on entend la même rengaine de tout le monde. Oui, ça l'a un peu amélioré au niveau de la rétention qu'on appelle, donc attendre avec mon civiace. Ça l'arrive moins longtemps qu'avant, mais ça l'arrive encore. Donc, okay, on attend. Il n'y a pas personne. Il n'y a plus de staff. Il n'y a plus d'infirmières. Ouais. Il y a des lits disponibles, mais il n'y a pas personne pour travailler dessus. Fait qu'on attaque nos patients. Des soins, on veut élargir la profession. On est tous d'accord avec ça. Mais il y a à Québec, on a essayé certaines choses qui n'ont pas marché. Donc, du paramédic communautaire qui se rend sur des appels non urgents. Est-ce que j'ai besoin? Est-ce que toi, tu as réellement besoin d'aller à l'hôpital où je peux te trouver un sans rendez-vous ou au CLSC? Quoi de même. Ça a marché un certain temps. Mais maintenant, avant, on avait des rendez-vous à la journée ou le lendemain. Mais là, c'est rendu, on a des rendez-vous dans 2-3 semaines.
Oui. De toute façon, vous êtes il y a un problème de couverture. Alors, on ne vous enverra pas sur des appels de même. Ça n'a pas de bon sens.
Mais ça pourrait aider. Ça pourrait nous enlever quelques appels.
Oui. Ouais.
Il y a des choses qui marchent. Dans la région, ça fonctionne encore. Il reste des choses à élargir. Mais c'est pas demain la veille qu'on va le voir. C'est beaucoup d'ajustements à faire. Fait que pour l'instant, c'est vraiment des ambulances sur la route qu'on a de besoin.
Est-ce qu'on en forme assez des ambulanciers?
Oui.
Ouais.
Le problème, c'est qu'ils ne restent pas. Il n'en reste pas dans. Tu sais, à Québec, on est chanceux, c'est un modèle coopératif, donc on est capable d'engager. Si on parle du Montréal-Laval, l'urgence santé, ils recherchent pas loin de 300 paramédics. Côte-Nord, Gaspésie, Abitibi, c'est en gros manque de paramédics. Les gens ne veulent plus y aller. Avec les conditions qu'on a présentement, ils ne veulent plus rester. Les gens disent, moi, c'est pas vrai, je m'en vais. On entend souvent les gens, hey, je ne ferai pas votre métier. Oui, présentement, c'est les jeunes qui disent « Moi, je le ferai, là, mais je le fais plus. Je m'en vais. Je ne suis pas capable de le faire. »
Donc, on retient pas, là, justement, de la main-d'œuvre, en plus d'avoir de la difficulté de recrutement. Frédéric Maheu, président de l'Association des travailleurs du préhospitalier, on se fait un petit deal ensemble. Faites vos négociations pendant le mois de juillet, puis on se reparle après ici à Boulevard Against le matin.
Sans problème.
Ça a-tu l'allure? On est derrière vous dans ce combat-là. On Merci. Croit vraiment en votre pertinence et surtout à ce que vous ayez des conditions de travail qui représentent vraiment ce que vous faites. Moi, d'entendre dire que vous êtes zéro en vibration quand vous êtes dans une ambulance à longueur de journée, je sais pas. Mais dis qu'en quelque part, il y a quelqu'un qui a manqué sa chute.
Il y a des négociateurs qui devraient aller s'asseoir pendant une semaine, deux semaines, puis faire la job.
Ah, ça, c'est tellement
ça
bon.
Ça devrait être de même dans tout, toutes les négociations.
Aller sentir le pouls du terrain. Ouais. Hein? Là, après ça, quand je vais négocier, je vais voir ça d'un œil différent. T'sais? Une ambulance comme à l'urgence.
Ouais.
On remarque que les deux sont des asiles présentement, malheureusement.
Aller dans les souliers de l'autre, ça fait toujours du bien.
Ça fait toujours du bien. Merci beaucoup, Frédéric, pour ta présence ce matin. Puis on se reprend, c'est certain, à la fin de vos négociations. On retombe en 1991. Ça, c'est au moment où j'étais un jeune adolescent. Puis là, je commençais à triper sur le grunge. Tu sais, je devenais un peu dark. Et il y avait un band, Nirvana, qui est arrivé sur l'album Nevermind, sorti le 24 septembre 1991. Il y avait ce grand classique, Come As You Are, de Nirvana. Vous êtes à Boulevard 102-1, BLV Legends le matin. On vous souhaite un excellent mardi.